Nous poursuivons ce soir notre cycle de conférences philosophiques sur le thème « Sommes-nous encore capables d'aimer ?» avec une thématique d'actualité, l'amour à l'heure du net. En invitant ce soir Mathieu Dubos, auteur d'une profonde réflexion sur la tentation pornographique, nous n'avons pas voulu restreindre la réflexion à la question de l'exhibitionnisme du voyeurisme auquel le net donne une dimension toute nouvelle, un accès immédiat et facile. Sans doute, la conférence nous invitera à réfléchir à cette tentation inhérente à l'audiovisuel de montrer ce qui ne peut être vu sans trahir sa nature d'intimité. Et le conférencier ce soir fera certainement référence à Lévinas, qu'il cite souvent dans sa réflexion sur la visibilité de l'intime. Nous avons cependant voulu étendre notre questionnement plus loin pour demander à un philosophe de se risquer à une question de société qui pourrait être aussi une question de sociologie, mais la méthode n'est pas toujours la même. Et ce qu'on lui demande en fait, c'est d'analyser l'influence des médias nouveaux, non seulement du web, mais de tous les moyens de communication que sont les portables, les réseaux sociaux, les blogs, les Twitter, etc., sur nos relations, nos manières d'entrer et de rester en relation, nos manières de comprendre l'intimité, de comprendre la distinction entre privé et public, nos manières de comprendre l'amour, nos représentations de l'amour, finalement nos manières d'aimer. Sujet d'une grande ampleur sur une thématique qui n'a pas encore fait l'objet de nombreuses analyses fouillées. Aussi, nous sommes bien reconnaissants à Mathieu Dubos d'avoir accepté de relever ce défi. Mathieu Dubos, bonsoir. Vous êtes professeur agrégé de philosophie. Vous enseignez en Cagne au lycée Sainte-Marie de Neuilly. Vous êtes en contact avec la génération de Facebook et des Twitter, même si les Cagneux ne sont peut-être pas les utilisateurs les plus accros de ces moyens de communication. Sans doute pourrez-vous nous faire part de quelques réflexions sur le sujet ce soir, à partir simplement de l'analyse de ce que sont ces nouveaux moyens de communication. Je vous laisse la parole.
Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend bien, c'est bon, bof. Alors vous me direz ce que je dois faire. C'est moi qui suis trop loin. Bonsoir à tous, voilà, j'espère que c'est mieux maintenant. Si j'ai tendance à m'éloigner un petit peu du micro, n'hésitez pas à me le rappeler. Merci frère Jean-Étienne pour cette invitation dans un cycle de conférences qui, en tout cas, même si je n'ai pas pu assister à tout, a l'air bien séduisant et bien appétissant. Et merci de ce défi qui est à la fois extrêmement philosophique et totalement anti-philosophique, qui consiste à réfléchir sur des pratiques très récentes, très présentes, là où la philosophie a plutôt tendance à préférer prendre son temps, hein, quitte à laisser pousser les barbes très loin, très longuement, et jusqu'à les laisser blanchir, et en même temps à renoncer à une de ses missions, qui est d'avoir un recul sur les pratiques présentes et contemporaines. Donc, c'est à la fois nécessaire que la philosophie s'occupe de ce genre de pratiques, et en même temps, c'est une difficulté. Je voudrais, pour commencer cette réflexion, partir d'un paradoxe assez surprenant et tout à fait symptomatique de notre époque, qui va nous amener au cœur de notre sujet. C'est que, à l'heure actuelle, dans le monde occidental, on n'a jamais vu autant de célibataires et de personnes seules, et en même temps, on n'a jamais bénéficié d'autant de technologies, de communication, de mise en contact, de rencontres à l'échelle planétaire. Si l'on prend par exemple les chiffres de Français, on estime aujourd'hui qu'il y a 12 millions de célibataires en France, c'est-à-dire deux fois plus qu'il y a 30 ans, ce qui est assez surprenant, hein, difficile d'en parler comme d'un accident. Je veux dire deux fois plus d'un point de vue en valeur relative. Et en même temps, cet essor, en tout cas cette augmentation extrêmement forte, va de pair avec la révolution d'Internet, hein, qu'on peut situer globalement au début des années 90 et qui depuis n'a cessé d'entrer dans nos foyers. Et donc, d'emblée, on peut soit s'étonner, soit soupçonner, soit tenter d'expliquer les choses à partir de ce paradoxe, c'est-à-dire Les plus pessimistes diront bah, c'est un échec. Ça prouve que Internet ne remplit pas sa mission de mise en relation, hein, puisque c'est sa vocation première, au départ militaire, hein, mais peu à peu civile. Ou alors, on peut poser le problème un peu sur le mode de l'œuf et de la poule, vous savez, qu'est-ce qui est premier, à savoir, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de célibataires et de gens isolés qu'on s'est mis à développer Internet, et donc on n'aurait pas encore récolté les fruits de ce qui est censé être un remède. Ça commence à faire long, hein, parce que 20 ans d'Internet, ça devrait, c'est immédiat, donc ça devrait avoir des fruits plus immédiatement visibles. Ou bien on peut dire que c'est parce qu'il y a Internet que les gens sont plus seuls. Bon, en tout cas, ce paradoxe laisse la question ouverte. Alors, c'est ici où je voudrais entrer un petit peu plus précisément dans notre question, à savoir que si l'on observe un petit peu plus précisément les manières dont Internet peut mettre les individus en relation, et plus particulièrement à l'occasion des relations affectives, voire amoureuses, on s'aperçoit que Internet a changé le paysage, sinon bouleversé ses relations, c'est ce qu'on essaiera de comprendre, au moins de trois points de vue. Alors, je vais être très factuel dans cette introduction, histoire de rentrer peu à peu dans les questions qui vont être les nôtres. Premier plan, le moins noble, le moins séduisant, en tout cas de l'extérieur, le moins dissible même, celui qui donne sans doute lieu à la plus grande hypocrisie, Internet correspond à l'explosion de la consommation pornographique. Dans beaucoup de pays, le mot « sexe » est le plus recherché sur les moteurs de recherche. Alors je me dirais, c'est peut-être en raison d'inquiétudes biologiques, médicales, peut-être. On tombe bien moins souvent sur des sites, en tapant ce mot-là, des sites médicaux, que sur des sites pornographiques. Vous me direz, c'est peut-être aussi parce que c'est un mot très simple que tout le monde sait décrire. Bon, on peut comme ça chercher des causes très lointaines, mais force est de constater que c'est souvent ensuite vers des sites pornographiques que les internautes vont. Quelques chiffres qui cautionnent cette interprétation. 12% des sites sur le web sont pornographiques. Ça fait beaucoup. C'est pas accessoire. Si vous regardez les autres catégories, entre les sites marchands, les forums, etc., on a là quelque chose d'extrêmement massif. Le dimanche est la journée la plus populaire pour la recherche du mot sexe. C'est le jour du Seigneur a une autre vocation. La recherche encore sans doute médicale, vous me direz. Et puis, pour ce qui est des pratiques les plus récentes, à savoir le streaming, c'est-à-dire, vous savez, la diffusion des films en direct, on regarde la télévision, si vous voulez, sur l'ordinateur, sans avoir à télécharger, eh bien, le site, en France en tout cas, le plus connu de ce point de vue-là, qui s'appelle YouPorn, c'est-à-dire chacun peut mettre son film pornographique à lui, enregistre 2,5 millions de visites chaque mois. Alors, visites soit de consommateurs qui viennent voir les films des autres, soit de gens qui mettent leurs propres films. Donc on a une sorte de plaque tournante comme ça, où tous les amateurs de pornographie se retrouvent, et 2,5 millions, c'est plus du tout une consommation de niche. Ça devient quasiment une nation à part entière. Alors, je passe sur quelques éléments anecdotiques. Par exemple, aux Philippines, le mot le plus recherché, c'est homosexuel et non pas sexe. Alors ça, il y a plein de choses un peu bizarres comme ça. Quand on analyse les statistiques du web, je pense que ça correspond plutôt à des modes. Et aux Philippines, c'est le mot amour. Alors peut-être un espoir du côté des Philippines, où le sentiment l'emporterait un peu. Mais ce qui est certain, c'est que par-delà ces mini-disparités, c'est qu'on assiste à une explosion d'une consommation qui existait déjà. Évidemment, Internet n'a pas inventé la pornographie. Mais après la première explosion de la consommation, qui correspond à l'invention du cinéma et dans son prolongement à la diffusion de la vidéo, on a là une deuxième révolution. Juste pour un petit rappel historique, la pornographie a toujours existé, évidemment. Simplement, elle était pour le coup de niche et souvent réservée à une élite qui avait accès aux moyens très matériels de cette pornographie. Si vous allez chez les antiquaires, vous trouverez des boîtes à tabac à double fond, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'était extrêmement peu consommé parce que compliqué à diffuser. Le cinéma impose d'emblée la possibilité d'un vecteur qui diffuse très large. Le cinéma pornographique naît en même temps que le cinéma. Et c'est vraiment avec la vidéo, donc au début des années 80, que la pornographie commence à être un objet de consommation standard. Sauf qu'on n'imaginait même pas à cette époque-là qu'on pourrait avoir de la pornographie gratuite qu'elle soit aussi facile d'accès et que ça redonnera encore, si je puis dire, un nouveau souffle à cette consommation. Donc telle me semble être la première modification dans les représentations de l'amour ou de la relation au sens très large qu'Internet impose. Mais ce n'est pas tout, et c'est une des, à la fois une des difficultés et un des intérêts de cette réflexion que m'a proposé le frère Jean-Étienne, c'est que cette diffusion de la pornographie est parallèle à la mise en place de nouvelles structures de rencontres, de contacts et plus largement de communication. Alors, je ne vais peut-être pas traiter de tous ces aspects-là, parce que c'est aussi gigantesque que la toile elle-même, mais je voudrais simplement signaler que parmi les sites les plus visités au monde, Facebook occupe la troisième place. Et je crois d'ailleurs que Mécanieux ou Anciens Contenus sont de très grands consommateurs de cela pour des motivations extrêmement variées. C'est plus, à mon avis, un phénomène générationnel qu'un phénomène culturel qui appartiendrait à certaines classes ou à certains types d'étudiants. Et cependant, plutôt que de réfléchir à ces réseaux-là que je maîtrise, à mon avis, pas totalement, j'en vois un écho plus spécifique dans la question qui est la nôtre, à savoir l'amour à l'heure du net, dans ce qu'on appelle les sites de rencontres. Alors, on peut se rencontrer sur Facebook, hein, principe d'une mise en relation, on peut avoir des amis d'amis d'amis qui nous sollicitent, qui nous poupent, hein, comme on dit, qui font une tape sur l'épaule, qui vous envoient un message, etc. Bon, on peut faire plein de choses pour se rencontrer, mais disons que ce n'est pas la vocation affichée de Facebook. Alors que les sites de rencontres, qu'il s'agisse d'amitié, de mise en relation de gens qui auraient les mêmes passions, les mêmes intérêts, ou bien explicitement pour trouver ce qu'ils présentent comme l'âme sœur, eh bien, voilà un phénomène qui a explosé avec Internet. Alors là encore, on n'a rien inventé totalement nouveau. Il y avait des entremetteurs professionnels, il y en a toujours eu, hein. Il y avait des structures sociales de rencontres. Mais disons que, en reprenant un schéma logique ancien, on assiste à une explosion de ce genre de pratiques. Selon l'Observatoire du célibat, alors j'ai découvert à l'occasion de cette recherche l'existence de cet observatoire, eh bien 37% des célibataires se tournent aujourd'hui spontanément vers Internet pour rencontrer un futur conjoint ou un ami de passage. C'est-à-dire que ça devient maintenant une option aussi spontanée que... Alors, je ne sais pas ce qui était spontané dans la tradition, ça doit varier avec les époques, mais en tout cas que peut-être de demander... si vraiment on est tout seul et qu'on aspire à ce genre de relation, si un tiers ne connaîtrait pas quelqu'un, ou de participer peut-être à des activités propices à la rencontre. Bref, maintenant, ça devient une option. Hein. On peut aller sur des sites de rencontres, comme avant, on pouvait aller dans des clubs de culture ou ce genre de choses pour rencontrer des gens. Alors, avec tout de même quelques petites particularités, ce sont surtout les femmes qui fréquentent ces sites. On peut être un peu surpris par ce chiffre. On imagine un peu le dragueur invétéré qui profiterait de ce nouveau terrain de chasse. Ce sont surtout des femmes, puisqu'elles représentent à peu près 60% des inscrites. Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on fait de son inscription, mais des inscrites sur ces sites. Et juste pour donner quelques chiffres, pour l'Europe Mythique, qui est le site le plus connu, hein, vous savez, avec même une inscription en bourse, regroupe actuellement environ 30 millions de membres, ce qui est pas mal, hein, parce que si, à supposer que les chiffres français du célibat soient à peu près ceux de l'Europe, ça veut dire que globalement, oui, c'est ça, un célibataire européen sur trois se retrouve sur Mythique. Alors, il est sûr qu'on a moins envie de rencontrer une Hongroise quand on habite à Paris ou Lyon, mais en tout cas, cela promet ce genre de rencontre. Et même si ça ne va pas jusqu'à rencontrer tous les gens seuls de tous les pays, c'est un phénomène extrêmement important. Avec, et c'est ici où je vais peu à peu entrer dans le problème qui est le mien, une particularité assez surprenante quand on interroge ces gens, je cite ici un sociologue, c'est que les trois quarts des sondés avouent que le profil des autres qu'ils consultent, qui peuvent les intéresser éventuellement, est beaucoup plus une source de fantasmes et d'imaginaire que vraiment quelque chose qu'on voudra concrétiser. Comme si c'était plus une machine à rêver qu'une machine à rencontrer. De l'aveu même des internautes qui sont inscrits sur ces sites. Alors, ceci m'interpelle dans la mesure où j'y vois d'ores et déjà un lien à faire. Alors, on peut commencer par se dire, les sites pornographiques, c'est quand même très loin des sites de rencontres. Hein. On a l'impression que d'un côté, on aurait la poubelle de ce qu'on ne veut surtout pas montrer, dire ou avouer, et puis de l'autre, quelque chose qui était peut-être tabou au début. Hein. Celui qui s'inscrivait sur les sites de rencontres, c'était celui qui n'avait pas été assez malin pour trouver l'âme sœur par des voies normales. Aujourd'hui, si un tiers des célibataires pratique cela, ça peut plus être un tabou, en tout cas ça va finir par se voir. Hein. Donc c'est quelque chose qui est maintenant un peu plus assumé, et même pour avoir assisté à un mariage de gens qui se sont rencontrés par cette voie, ça peut même être présenté comme une sorte de victoire sur l'anonymat d'Internet, donc on peut même l'assumer maintenant comme une conquête. Donc on a quand même l'impression de deux pratiques qui sont différentes, d'un côté, de manière un petit peu caricaturale, ce qui est sale, vicieux et mal, et puis de l'autre, ce qui était un peu surprenant au début, mais qui finirait par entrer dans les mœurs. Alors, en dépit de cette distinction qu'on ferait spontanément, j'ai quand même l'intention d'analyser un point commun qui ne conduira pas à confondre ces deux pratiques, mais qui peut-être va nous permettre de comprendre que les représentations qui circulent à travers le net, ou dont nous sommes les victimes, les bénéficiaires, on va voir, répondent à un désir, une intuition, une racine commune dont ces deux types de pratiques, pourtant différentes, j'en ai conscience, seraient les témoins. Je voudrais, pour exprimer peu à peu cette idée, poser plus précisément deux questions. La première, je vous ai moi-même présenté un peu les choses comme cela. On a affaire à des schémas logiques qui sont anciens. Un entremetteur, une entremetteuse peut-être plus traditionnellement, ou la médiation d'un site par une voie électronique, c'est la même chose par des voies différentes quelque part. Et d'un autre point de vue, on sait bien que la forme n'est jamais indifférente au fond, et réciproquement. Hein. Écrire une lettre par voie électronique ou l'écrire de manière manuscrite, non seulement ça ne connote pas les mêmes choses, mais même ça ne dénote pas les mêmes choses. Vous en avez sans doute vous-même fait la pratique, l'expérience très récemment. Il y a des gens à qui on envoie un SMS de bonne année, d'autres à qui on envoie un courriel, voire une carte électronique de bonne année, et puis il y a les choisis à qui on envoie une lettre manuscrite. Donc ça renvoie à des significations différentes, et donc même si la structure logique de l'intermédiation, elle, est aussi vieille que le monde, je ne vais pas trop taper sur la table, d'un autre côté, le fait de changer de support peut avoir des conséquences, d'où la première question toute simple. A-t-on affaire ici à un nouveau type de relation, ou bien est-ce qu'on a simplement affaire à une autre expression de quelque chose qui existait déjà? Autrement dit, est-ce que la nouveauté et la révolution à laquelle prétend Internet, en général, s'applique en particulier aux relations amoureuses? On aurait appris à aimer autrement, ou bien on aurait appris à ne plus aimer, je ne sais pas, il faudra voir. Ou bien, plus modestement, est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement changé, porté un accent, diminué un aspect de ce qui fondamentalement resterait quelque chose de traditionnel et d'habituel? Nous poserons la question de la nouveauté de ce type de relation engendrée ou vécue via Internet. Et puis, évidemment, et je n'y échapperai pas, et c'est bien en cela que j'assume la dimension philosophique de ce travail, se pose la question de l'évaluation de ces pratiques. Si elles ne sont que la reprise de pratiques anciennes, etc., la question de leur valeur se pose autant qu'on pouvait se poser la question de la qualité des relations avant. Voyez dans les différentes éthiques les réflexions sur le bel amour et l'amour vicieux, sur les belles amitiés et au contraire les fausses amitiés. Donc de ce point de vue-là, on serait dans cette lignée-là. Mais s'il y a quelque chose de nouveau, et si c'est une pratique qui n'est plus tabou et qui devient un phénomène de société, il est tout à fait légitime de se demander si on en est les bénéficiaires, donc nouveauté qui aide tout le monde et dont la société profite, dans ce cas-là tant mieux, ou bien si au contraire, et le discours ambiant va plutôt dans ce sens-là, on a affaire à quelque chose qui va finir par nous blesser, qui nous blesse peut-être déjà fondamentalement. À une réserve près, tout de même, je ne voudrais pas poser cette question, si je puis dire, de l'extérieur, avec cette idée que tout a été dit une fois pour toutes en morale, et que comme ça va vite, comme c'est nouveau, et comme ça paraît plutôt salace, en tout cas pour la pornographie, c'est forcément le mal, qu'il faut s'en éloigner, etc. Peut-être qu'on va parvenir à cette conclusion, mais en tout cas, ne pas le faire trop rapidement. il y a là des pratiques, c'est-à-dire des pratiques de personnes, c'est-à-dire des pratiques de personnes humaines avec une intelligence. Appliquons le principe de charité jusqu'au bout et estimons au moins au départ que ces pratiques, même les plus dégoûtantes a priori, ont une certaine forme de recul et de rationalité. Alors, c'est pourquoi, dans cette réflexion à la fois sur les sites pornographiques et sur les sites de rencontres, je vais commencer par quelque chose de globalement descriptif, même si vous allez voir que peu à peu, je vais le fouiller jusqu'à en tirer des valeurs, pour justement éviter le travers d'un jugement un petit peu trop immédiat, pour le coup. Alors, ce serait évidemment l'immédiateté contre une autre forme d'immédiateté, ce qui ne serait pas très légitime, et puis surtout pour, encore une fois, voir si ce n'est pas, après tout, une réponse maladroite ou bien finalement très adroite à un problème qui serait celui de tout le monde. Donc, dans un premier temps, je voudrais réfléchir à l'immédiateté, c'est la notion sur laquelle je vais réfléchir d'abord, et à son ambiguïté. Donc, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'Internet, c'est tout de suite et très vite et gratuit et facile, donc voilà tous les termes qu'on pourrait au moins ponctuellement rendre équivalents à l'immédiateté. Mais je voudrais montrer qu'elle est à la fois très puissante, très nécessaire et en même temps très ambiguë. Donc ambiguïté, ça veut dire, vous voyez, d'emblée, je me place d'un point de vue où je ne vais pas vous dire c'est mal d'emblée, il faut absolument s'en défaire, le nouveau Satan, c'est Internet, etc. Je voudrais justement analyser ce que ça a de bon et de moins bon, ou en tout cas de prometteur et de décevant, pour, en fin de cette première partie, conclure à l'idée que c'est surtout une machine à fantasmes, et à un fantasme en particulier, celui du contrôle total de la relation à autrui. Donc, non pas tous les fantasmes dans l'absolu, mais le fantasme d'une maîtrise parfaite de ce qui se joue avec un tiers. Et puis, dans un deuxième temps, à partir de cette première conclusion, je voudrais montrer que ce fantasme n'est pas né avec Internet, qu'il n'est pas le fait de gens frustrés ou atteints d'une sorte de pathologie, d'un vice quelconque, mais plutôt de montrer qu'il y a derrière cette réponse, derrière ce fantasme, la réponse maladroite à quelque chose d'objectif et d'existant dans les relations à autrui, c'est-à-dire une forme d'imprévisibilité, une forme d'inquiétude, une forme de surprise qui ne peut pas laisser indifférent, contre laquelle on ne peut pas ne pas vouloir se protéger, mais qu'il faut peut-être apprendre à dompter d'une certaine manière, ou en tout cas à assumer. Et c'est en cela que je vous parlerai un petit peu d'Emmanuel Lévinas, en tout cas pour revenir à des questions qui nous sont plus contemporaines. Alors, commençons justement par analyser un petit peu en détail ces sites de rencontres et ces sites pornographiques, avec en premier lieu cette immédiateté et son ambiguïté. Alors, en quoi déjà Internet peut-il être qualifié d'avantageux de ce point de vue-là, qu'il s'agisse des sites de rencontres ou des sites pornographiques? Eh bien, parce que c'est une manière de gagner en liberté, d'accéder immédiatement à énormément d'informations. Promenez-vous sur un site de rencontre et vous verrez qu'au moins potentiellement, vous pourrez rencontrer plus de gens sur ces sites que vous n'en rencontrerez physiquement dans toute une vie. Donc, il y a là une promesse d'efficacité, une promesse de brassage culturel, gratuit ou extrêmement peu coûteux en général, de rapidité, de souplesse. Et puis, pour ceux qui seraient les plus timides, et si l'on y réfléchit bien, nous le sommes tous à un certain degré, mais nous le sommes tous au moins un petit peu, ne serait-ce que dans la réserve du respect. Difficile de taper sur l'épaule de quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, ou alors c'est qu'il a besoin d'être réveillé, mais c'est la même chose. Donc, cette timidité, elle est là chez chacun de nous, et elle peut disparaître avec Internet. On peut regarder ce qu'on veut. Voilà, on n'a pas besoin de montrer qu'on regarde. On n'a pas besoin de demander la permission, enfin, la permission. On n'a pas besoin de subir au moins potentiellement le jugement de la vendeuse de journaux de charme. On n'a pas besoin de passer à la caisse du vidéoclub en montrant qu'on a des consommations que d'aucuns jugeraient malsaines. Donc, tout d'un coup, c'est la possibilité d'exprimer des désirs de manière immédiate et avec une réponse immédiate. Vous trouvez, en termes de pornographie, absolument tout sur Internet. Hein, et la police qui essaie de chasser les pédophiles a bien du mal à faire fermer ce genre de site. Donc on peut vraiment tout trouver. N'importe quelle pratique se trouve recensée sur Internet. Et pour ce qui est des sites de rencontres, il y a là une promesse d'adéquation parfaite entre ce qu'on veut et ce qu'on peut trouver, que la vie réelle semble elle-même ne pas pouvoir concurrencer. Dans une journée, même si vous avez la possibilité de rencontrer beaucoup de gens, si vraiment vous avez un désir extrêmement précis, extrêmement ciblé, extrêmement particulier, le grand amour, comme disent certains, avec un grand G, un grand A et toutes les grandes lettres que l'on veut, devient extrêmement improbable. En plus, s'il n'y en a qu'un seul pour chaque personne, on ne peut pas le mettre au pluriel, il suffit qu'on ne soit pas tombé dans la bonne époque ou le bon pays, et ça y est, c'est terminé. Donc là, tout d'un coup, on pourrait dire que finalement, le fantasme romantique de l'amour parfait et mystique se trouve réalisé. Hein. On pouvait avant craindre que pour des raisons matérielles, ce ne soit pas possible. Ça devient matériel, et de surcroît, même les romantiques timides ont leur chance sur Internet. Ils peuvent commencer la tactique d'approche sans avoir des choses qui, s'ils sont un petit peu éconduits, pourraient les mortifier pendant des années et des années. Tout d'un coup, Internet se présente donc comme une voie de libération. Alors, c'est une voie de libération et une efficacité toute potentielle et toute séduisante, mais qui va de pair immédiatement avec deux dangers. Et les internautes qui ont ces pratiques-là s'en rendent compte assez vite, à leurs dépens bien souvent. Tout d'abord, dans les sites de rencontres, la possibilité du mensonge est tellement ouverte, immédiate et sans conséquence quasiment pour celui qui ment, qu'on a des profils qui sont, ce qu'on les appelle comme ça, hein, des présentations de soi qui sont extrêmement idéalisées, alors pour appâter, pour séduire, mais aussi peut-être pour s'inventer le personnage qu'on aurait voulu être. Et ce faisant, on assiste un peu à une forme d'industrialisation de la séduction, où on entre plus ou moins dans des stéréotypes, car quand on s'idéalise, c'est rarement indépendamment d'une culture où il faut être ainsi et non pas comme cela. Je ne sais pas si sur Internet, il y a beaucoup de gens qui aiment dire qu'ils font 120 kilos et qu'ils le vivent très bien. Peut-être certains, hein, mais ça ne doit pas être la majorité. Si Internet s'était développé, je ne sais pas moi, à la Renaissance, par exemple, à l'époque où on aimait les femmes bien potelées et qui montraient qu'elles avaient de quoi manger en vue d'une famine toujours possible, sans doute qu'elles auraient mis un profil où elles se seraient présentées avec toute leur rondeur. Donc, concrètement, on ment, mais on ment sur un fond culturel qui nous dit dans quelle peau et dans quel personnage rentrer. C'est en cela qu'on peut parler d'une forme d'industrialisation ou d'une fabrication, mais extrêmement formatée, de différents personnages. Et puis, l'autre danger, plutôt du côté de la pornographie, mais après tout, il peut aussi s'apercevoir sur les sites de rencontres, eh bien, c'est la possibilité d'une manipulation. Sur les sites de rencontres, c'est déjà le cas, parce que voir sans être vu, c'est-à-dire potentiellement pouvoir décortiquer la photo de l'autre alors qu'on aurait du mal dans un face-à-face à le regarder sous toutes les coutures. On peut prendre n'importe quelle photo sur un profil de site de rencontre, la mettre dans un de vos dossiers et la grossir 100 fois pour vérifier que la personne n'aurait pas des ridules cachées. Dans un face-à-face, c'est plus embêtant. Vous n'allez pas vous amener avec une loupe et vérifier la qualité du produit, hein, pour être sûr de ne pas perdre votre temps, le prix d'une soirée, d'un dîner, et puis tant d'autres relations qui, pendant ce temps-là, ne pourront pas se développer. Donc, c'est déjà le cas pour les sites de rencontres. Alors pour la pornographie, c'est l'évidence même, à savoir on peut tout voir de l'autre, on peut tout exiger de l'autre, alors peut-être pas de cet autre-là en particulier, mais des autres en général, on peut accéder à leur intimité, en tout cas physique, la plus évidente, et puis on peut même voir des choses que l'on n'aurait peut-être pas la chance, en tout cas l'occasion, de voir dans sa vie réelle. Donc une sorte de manipulation toujours possible. Finalement, non seulement je peux faire des personnages de ma propre vie, mais je peux aussi trouver tous les personnages que j'ai envie de voir, d'apercevoir, et potentiellement les manipuler. Alors pourquoi je parle de manipulation ? Dans le cas de la pornographie, c'est peut-être un peu moins évident que pour les sites de rencontres, parce que l'image d'autrui, c'est pas juste un accident à la surface de son âme ou de son essence. Son image, c'est aussi soi. Toute proportion gardée, peut-être pas toutes les images, peut-être pas dans toutes les postures, mais je suis aussi mon corps, j'exprime quelque chose. Si vraiment ça n'avait aucun intérêt, aucun de vous ne serait vêtu, enfin, supposé que le temps le permettent. Le vêtement est une manière de placer des zones qui peuvent être vues et d'autres qui ne doivent être réservées qu'à quelques-uns ou d'ailleurs à personne. Tout montrer ou avoir la possibilité de voir tout ce qu'on veut chez l'autre alors qu'il ne l'a même pas autorisé en particulier à tel internaute, eh bien c'est pour celui qui consomme ce genre d'image pouvoir manipuler à un certain degré ce qu'est l'autre. Alors, pas toute la personne, hein. Mais par exemple, vous avez tout de même un peu cela dans... alors, je ne sais pas si ça porte un nom en particulier, mais ces sites qui proposent des prestations... alors, je ne sais pas s'il faut parler de prostitution ou de pornographie, un peu à la limite, où l'internaute peut demander en direct à la personne qui est en train de se dévêtir ce qu'il veut qu'elle fasse, comment elle doit le faire, etc. Donc on peut aller jusqu'à une manipulation du mouvement lui-même, mais je crois que la manipulation, elle est déjà dans l'usage de l'image de l'autre. Donc dans les deux cas, il me semble que ce sont les premiers dangers qui apparaissent. Alors, non seulement cette immédiateté est ambiguë, pleine de promesses et en même temps pleine de dangers, mais il y a une promesse que le net a faite dès sa création, en tout cas de manière implicite, c'est qu'il pourrait proposer le brassage social que la société promettait de faire et qu'elle n'a jamais réussi à faire à travers l'histoire. Donc c'est le deuxième point que je vais aborder dans cette description. Je vais décidément trop lentement, je vais peut-être aller un petit peu plus vite maintenant. À savoir que certains ont présenté Internet comme une sorte de village mondial, hein, c'est un terme qu'on a pu lire ici ou là, un cyberespace où on pourrait rencontrer par exemple quelqu'un de très riche sur un forum sans avoir à subir un premier regard de distinction dans les premiers temps. Bref, Internet serait le lieu où toutes les rencontres sont possibles, hein, pas seulement amoureuses ici, mais de manière générale. Et cette promesse de libération sur le plan des relations sociales, cette possibilité de rencontrer tout le monde, va de pair avec une promesse de libération sexuelle. Après tout, on peut rencontrer des gens qui ont toutes les pratiques, et surtout dans ces sites pornographiques, on peut voir des gens qui ont toutes les pratiques. Donc quelque part, Internet aurait un rôle pédagogique, c'est-à-dire regardez, c'est possible, certains le font, voyez comment ils font, posez-leur des questions, etc. Donc une libération sur tous les plans, non seulement par-delà les stratifications sociales, mais aussi par-delà toute éducation qu'on aurait reçue explicitement ou implicitement et qui nous limiterait dans nos pratiques sexuelles. Hein, c'est une idée qui s'est pas mal développée dans les années 90 aussi, à savoir que il y a ceux qui ont une sexualité libérée et débridée, et puis il y a les autres, les parangons du classicisme, qui se contentent des positions ancestrales, pour ne pas dire enseignées par l'Église elle-même, la fameuse du missionnaire, hein, puisque vous savez que c'est une position qui a été nommée ainsi parce qu'elle était censée être la plus humaine de toutes les positions, hein, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive, petite anecdote, que les bonobos l'ont aussi. Alors, évidemment, elle n'est plus le propre de l'homme, cette position du missionnaire. Mais en tout cas, il y aurait ceux qui n'auraient toujours pas compris qu'ils ont été formatés, et puis ceux qui, enfin, ne serait-ce que par l'image, ont eu accès à d'autres pratiques et qui vont pouvoir se libérer. Or, c'est une promesse qui, de fait, n'est pas tenue. Premièrement, sur le plan des rencontres, et du brassage social. Ce n'est pas parce que vous mettez 10 téléphones portables, un site de réseau social et autant de sites de rencontres qu'il faut entre des gens de strates sociales différentes qu'ils vont, un, vraiment vouloir rentrer en relation et deux, se comprendre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on se comprend mieux ? Alors, on parle peut-être beaucoup plus, on échange peut-être beaucoup plus d'informations, mais la communication n'est pas qu'une affaire de quantité ou de possible. Elle est bien une affaire de qualité. Le malentendu reste autant possible dans le face-à-face que sur Internet. Et quand vous voyez, c'est très récent, qu'il y a maintenant des sites, je ne sais plus le nom, pour célibataires exigeants, alors quand vous regardez un petit peu ce que c'est que les exigences, c'est rarement « moi je suis disciple de Kierkegaard, cherche Kierkegaardienne en mal d'amour », c'est plutôt concrètement à quelle strate sociale tu appartiens et combien tu gagnes, qu'on soit compatible. Donc finalement, on reconstitue peu à peu la lisibilité sociale habituelle, peut-être par défaut, mais elle est là. Donc cette promesse n'est pas tenue. Et puis, deuxième promesse qui n'est pas tenue, c'est celui de la libération sexuelle. Alors je cite ici un sociologue qui s'est beaucoup intéressé aux sites pornographiques et surtout aux effets de ces pratiques pornographiques, de ces sites pornographiques, pardon, chez leurs consommateurs. Donc je cite, « Le script ou fantasme est déjà en place à l'âge de 10 ans, et ce n'est pas la pornographie qui le crée. Au début de l'adolescence, les garçons sont très curieux sexuellement et sont contents d'accéder à ce matériel pour apprendre comment ça se passe. Mais ils laissent de côté ce qui ne leur plaît pas ou ce qui les dégoûte. Ils choisissent donc ce qu'ils regardent et il n'y a pas de victime involontaire chez les usagers. Alors quelque part, bonne nouvelle, ça veut dire que les schémas de la sexualité qui sont inspirés par la famille, par l'éducation en général, ne se trouvent pas totalement modifiés par cela, donc victoire, on n'est pas des victimes des images pornographiques. Mais d'un autre côté, si c'était pour nous ouvrir l'esprit sur des pratiques qui n'auraient pas été les nôtres, bah alors c'est raté. C'est-à-dire que ces adolescents auront, pour le dire rapidement, la même pratique que leurs parents. Donc ça ne sert à rien. Ce n'était pas la peine de passer par Internet et de mettre en place une toile mondiale si c'est pour reproduire ce que les parents proposaient déjà ou faisaient, en tout cas implicitement. Donc, encore une fois, une ambiguïté de ce qui est censé être extrêmement nouveau et extrêmement utile pour retourner à quelque chose d'extrêmement conventionnel ou finalement de très décevant. De même, on était censé pouvoir rencontrer des gens très différents, ce serait le troisième point de cette description, c'est-à-dire accéder à des univers personnels qui ne sont pas les nôtres, qui sont originaux, passer du pareil au même au pareil à l'autre, à la possibilité d'une vraie aventure vécue grâce à Internet. Et quand on observe les sites de rencontres, on s'aperçoit qu'on a affaire à une gigantesque taxinomie, avec des profils extrêmement formatés qui correspondent à des critères tels qu'on les pratiquait déjà dans les agences matrimoniales, etc., mais qui finalement donnent lieu à une lisibilité parfaite de ce que l'autre peut vous apporter ou peut ne pas vous apporter. Alors je pose la question, où est la surprise et la nouveauté de ces rencontres-là ? Difficile de penser qu'on sera surpris par les gens qu'on rencontrera si, soit par le mensonge, ils rentrent dans des stéréotypes, soit, dans leur sincérité, ils sont obligés de rentrer dans des cases en vertu d'une sorte de marketing amoureux qui laisse place à des critères binaires. On est ceci ou on n'est pas cela. On est cela ou on n'est pas ceci. Et finalement, tout ceci nous ramène à une idée de consommation. Voilà. Quand vous allez dans un supermarché, vous avez tous les produits qui sont alignés, classés, distingués. Qu'est-ce que nous propose un site de rencontre, sinon de choisir entre différentes fiches signalétiques? Et bien bizarre, celui qui choisirait exprès ce qui spontanément ne lui correspond pas. Si on la veut belle, intelligente et fortunée, on ne va pas se dire « Non, non, il faut que je lutte contre le consumérisme ambiant et je vais la prendre laide, idiote et sans le sou. » Donc c'est une tendance totalement naturelle, voulue, provoquée, et puis qui correspond à une rationalité de consommation qui est la nôtre en général. Et on retrouve la même chose dans la pornographie. Cliquer, ou en tout cas profiter de mes clics pour observer cette rationalité pornographique, c'est rangé comme dans une pharmacie. Vous avez toutes les catégories, vous savez vers quel type de film, vers quel type d'image vous pouvez aller. C'est même fait avec beaucoup de précision. Vous pouvez avoir l'âge des gens qui pratiquent ce genre de choses, leur type de pratique, le lieu d'où ça vient, le type de langue, parce que certains vont peut-être être attentifs aux verbes dans ce petit type de récit, rarement très fouillé quand même. Donc on a affaire à un univers totalement catégorisé. On sait ce qu'on veut voir, on va le chercher, on le trouve. Et même si parfois c'est un petit peu dissimulé, je pense à la pédophilie, évidemment là c'est y a le problème de la loi, pour des pratiques en tout cas que la loi permet, et qu'on n'aimerait pas avouer à ses amis, encore moins à ses parents évidemment, on peut le trouver très vite, c'est un véritable jeu d'enfant. Alors, pourquoi est-ce qu'on tombe très vite dans ce consumérisme amoureux ? Eh bien, encore une fois, parce que l'image, c'est très manipulable, donc on consomme. Hegel dit du désir qu'il est destructeur. Quand je vois une pomme, je la croque, et ensuite je jette le trognon. On est dans l'immédiateté du désir qui détruit. Et ensuite, parce que c'est immédiat. La consommation, c'est l'immédiateté. Or, Internet, c'est la réponse immédiate à des désirs, en tout cas quand ils ne sont pas trop complexes comme cela. Donc pourquoi ne pas entrer dans une logique de consommation quand tout est manipulable et quand tout est immédiat ? C'est tellement proche de l'acte même de consommer que c'est normal que cette pratique ressemble à une gigantesque consommation. Alors, j'en arrive, j'espère ne pas être trop long, à la conclusion de ce premier temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut tirer de ces points communs entre les sites de rencontres, les pratiques de réseaux sociaux en général et la pornographie sur Internet, c'est que finalement ce sont des pratiques fantasmatiques. À savoir que dans la pornographie, j'ai enfin l'univers sexuel que je veux, que la vie ne m'a pas forcément proposé. J'ai, au moins via l'image, la possibilité de manipuler des corps auxquels je n'ai pas accès sans avoir besoin de séduire de manière immédiate. Donc finalement, je peux tout faire via l'image. Mais en même temps, c'est l'image. Donc c'est bien fantasmatique. Mais j'ai le droit à tout potentiellement par l'image. Et pour les sites de rencontres, pourquoi est-ce aussi fantasmatique? J'ai parlé tout à l'heure de la création des personnages, du mensonge, etc. Eh bien parce que là, c'est pas seulement l'immédiateté qui compte, c'est tout simplement parce que c'est désincarné. Ce qu'il y a ou de très enthousiasmant ou de très décevant en l'autre, c'est l'autre réel. Hein. Tant qu'il est imaginé, deviné, suggéré, projeté, on peut lui accorder toutes les qualités du monde. Alors, je ne veux pas dire que les rencontres physiques sont décevantes, hein. Mon propos va être différent. Mais je veux dire simplement qu'on peut accorder toutes les vertus, toutes les grâces et tous les avantages à quelqu'un qu'on n'a pas en face de soi. Et tant que vous avez cette intermédiation dans le face-à-face, qui pour le consommateur Internet devient l'immédiateté de l'image, eh bien, tous les fantasmes sont autorisés. Et ça marche bien mieux, enfin bien mieux, ça marche au moins aussi bien qu'un roman. Mais simplement, par un roman, on ne prétend pas rencontrer quelqu'un. On rencontre à la rigueur un auteur, une époque, mais il n'y a pas quelqu'un en face qui a rempli une fiche signalétique. Alors, il y a quelque chose de fantasmatique et de rêvé parce que c'est immédiat et parce que c'est désincarné, mais ce n'est pas tous les fantasmes qui peuvent caractériser ces pratiques-là, selon moi. C'est avant tout le fantasme d'une maîtrise totale de la relation. Je voudrais commencer par citer un sociologue qui a écrit un ouvrage assez intéressant qui s'intitule « Le cœur net, célibat et amour sur le web », le titre est assez bien trouvé, je trouve, qui s'appelle Pascal Lardelier, et qui écrit ceci. « Plus qu'un épiphénomène, cette télésexualité ressortit encore à cette mise à distance généralisée et ce contrôle total que le célibataire postmoderne souhaite exercer dans l'absolu. Car il est très sécurisant de maîtriser le désir d'autrui et de jouer, voire de jouir, de ce contrôle. Et ils sont nombreux à évoquer la toute-puissance découlant de la gestion de dizaines de relations amoureuses, virtuelles et menées simultanément. » Autrement dit, moi, derrière mon ordinateur, à envoyer des messages personnalisés, mais en fait issus de copier-coller à 15 personnes à la fois dans les 10 secondes qui suivent, eh bien, je suis l'homme qui a tous les pouvoirs. Je peux faire croire presque tout ce que je veux, et dès lors m'imaginer qu'il peut m'arriver tout ce dont j'ai envie. Et ce qui est valable pour l'envoi, je pense à l'exemple de courrier, eh bien, vaut également avec la taxinomie que j'évoquais tout à l'heure. Si vous savez exactement sur quelle personne vous voulez tomber, et si vous savez exactement vers quoi vous allez, vous êtes l'homme ou la femme qui a le choix. Donc, on a l'impression que le vieux rêve d'une transparence des marchés, hein, que les libéraux souhaitent absolument, eh bien, il s'est d'abord exprimé ici dans la transparence des relations. J'aurai ce que je veux, puisqu'il y a une transparence proposée par Internet, de la manière la plus simple et la plus immédiate, et avec tous les effets possibles. Pour la pornographie, on aurait quelque chose d'équivalent, à savoir que dès lors que je vois sans être vu et que je peux voir tout ce dont j'ai envie, eh bien l'intimité n'est plus un problème. J'ai le droit à l'intimité de l'autre sans avoir à subir son regard, son jugement. Autrement dit, la pure image de l'autre, sans l'autre, réduit toute forme de distance, toute forme de respect qui serait dû, et me propose une manipulation à mon bon vouloir. Bref, on peut dire que dans les deux cas, on pourrait penser qu'on maîtrise tout, et en tout cas que ce qui alimente ces pratiques, c'est la possibilité, le rêve, le fantasme, de tout maîtriser. Donc déjà, avant de passer à ma deuxième partie, je voudrais signaler le point commun qu'on peut faire entre des pratiques qui pourtant ne se présentent pas immédiatement, même si évidemment il paraît beaucoup plus négatif de consommer sur des sites pornographiques. On a une double racine commune, celle de l'immédiateté et celle du désir de contrôle total qui rassemble ces pratiques. Le simple fait de les distinguer tout en marquant ce point commun montre que aucune des deux n'est neutre. Hein. On pourrait dire ça de toute action morale, quelle qu'elle soit, mais en l'occurrence, c'est en cela que cette comparaison, je pense, peut être utile. Alors, pour autant, est-ce un mal ? Ça dépend. En fait, ça dépend de quoi ? Ça dépend de ce qu'on met dans la relation elle-même. Si la relation ne peut être vécue de manière riche et féconde que de manière médiate et incarnée, cela paraîtra toujours quelque chose de mauvais. Mais en même temps, est-ce qu'il est mauvais de vouloir contrôler une relation à l'autre ? Alors vous allez me dire, contrôler l'autre, c'est mal, etc., sa liberté. On l'a tous été dans nos premières années, hein, et pour notre plus grand bien. Donc déjà, c'est pas toujours un mal. Mais contrôler la relation elle-même, les discussions qu'il y a entre les personnes, les discussions, les ajustements divers, les ententes, voire les disputes et leur fécondité, puisque ensuite on peut espérer un retour à l'harmonie. C'est aussi une manière de contrôler un peu le jeu relationnel. Donc ce n'est pas un mal en soi de vouloir contrôler une relation. Mais peut-être qu'il y a une manière de le faire et un degré de contrôle à observer qui font que ces pratiques doivent cependant être jugées défavorablement. Alors pour justement voir passer sur le plan de l'évaluation cette fois de ces pratiques, je voudrais développer l'idée suivante. Est-ce que si je prends une vingtaine de minutes pour terminer, c'est bon, ça ira ? L'idée suivante, à savoir que ce fantasme du contrôle total, qui est bien un fantasme encore une fois, parce que personne n'y parvient totalement et il se fait via une image, il est peut-être moins malsain qu'on le croit, au sens où la relation à autrui, c'est jamais gagné. Donc de ce point de vue-là, honneur mesuré bien sûr, aux internautes et aux plus dépréciés de ceux qui pratiquent cela, car ils ont peut-être au fond de leur pratique une intuition juste, à savoir que la vraie relation humaine a quelque chose d'inquiétant. Alors, je le dis d'abord d'une manière un petit peu négative volontairement, hein. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'une relation aurait quelque chose de fondamentalement inquiétant et à quoi tout le monde serait sensible que les manières de répondre à cette inquiétude se valent. Hein. La peur, quelle qu'elle soit, même indépendamment des relations humaines cette fois, on peut tous la ressentir face à des événements ou même à un seul événement. Après, ce qui nous distingue, c'est peut-être notre manière de réagir. La peur, après tout, est une passion. On ne la commande pas. Mais entre le lâche qui va partir en prenant les jambes à son cou, l'homme courageux qui va résister, ou, autre excès possible, le téméraire qui ne va pas se poser à cette question, on peut réagir très différemment à différentes peurs. Alors justement, pour voir quel est ce type de peur, on va l'appeler comme ça dans un premier temps, j'aimerais fouiller un petit peu plus ce désir de maîtrise totale de la relation et passer par les catégories philosophiques d'Emmanuel Levinas, c'est-à-dire de la phénoménologie appliquée à l'éthique. Alors, dans un premier temps, je voudrais revenir sur la pornographie telle qu'elle se développe sur Internet, mais en même temps, plus largement, telle qu'elle se développe dans son principe même, et cela depuis très longtemps. À savoir que ce que prétend faire la pornographie, c'est de tout montrer. Dans les catégories un petit peu vieillottes, vous savez, du CSA, quand on voit le haut mais pas le bas, on est dans l'érotisme. Quand on voit le bas, on passe au film interdit au moins de 18 ans. Bon. Donc, vieille intuition qui veut dire que quand vraiment on voit tout, mais vraiment tout, tout, eh bien, on est dans la pornographie. Ce qui n'est pas faux, hein, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt l'idée que ici règne l'image, comme si autrui n'était qu'un corps. Je peux tout voir de l'autre parce qu'autrui est un corps, d'abord. Donc il y a plus, si vous voulez, que l'idée de manipuler l'image de l'autre, il y a aussi l'idée de réduire l'autre à une image et à un corps, ce qui va un petit peu plus loin. Hein. Non seulement j'ai l'image de l'autre qui est un peu lui, mais tout d'un coup, ça devient, il est son image, il n'est que ça, et la pornographie a cette prétention. Simplement, elle dit autre chose aussi, cette pornographie, et vous le sentez bien au vocabulaire que j'utilise, elle est violente, la pornographie. C'est un autre distinguo avec l'érotisme, en tout cas dans les catégories télévisuelles. Il y a des films pour lesquels on peut se demander s'ils sont érotiques ou pornographiques. Je pense à des films présentés comme artistiques, certains films de Pasolini, par exemple. Alors, ce sont des œuvres d'art, mais en même temps c'est pornographique, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Vous avez comme ça tout une série de films un petit peu ambigus qui sont formellement bien faits mais qui en même temps dévoilent tout. Si justement on devait trouver un critère qui évite la distinction entre un film pornographique de supermarché, si vous voulez, ce que vous trouvez sur Internet, hein, ou un film fait par un artiste qui correspondrait à une vraie démarche et qui ne serait pas la pornographie vulgaire de pure consommation, ce serait peut-être la violence. Dans les films de Pasolini, alors je pense à Salo ou Les 120 jours de Sodome, alors c'est violent d'un certain point de vue, mais c'est une violence réfléchie, calculée, mise en scène, etc. Donc on a encore assez de recul pour l'analyser comme violence. Dans la pornographie telle que vous la trouvez sur Internet, elle est violente, mais elle ne laisse place à aucun recul que l'œuvre d'art ou l'esthétique permettrait justement d'alimenter. La violence, pour le coup, on se la prend en plein dans la figure. Et c'est fait pour ça. Et on veut que les acteurs, si ce sont des acteurs, ou les amateurs, si c'est fait à la maison, pratiquent ce genre de sport. C'est pas pour rien s'il y a très peu de langage dans la pornographie sur Internet. Ça parle pas beaucoup, enfin, je crois pas en tout cas. On part pas dans de longs monologues ou de longs dialogues à la Romère pour savoir quelle position on va adopter dans la scène suivante, vous voyez. Il y a plus de langage. Or le langage c'est quoi? C'est le temps, c'est la médiation, c'est la possibilité d'être compris par l'autre. Quand vous arrivez avec votre seul désir, c'est « écarte les jambes que je m'y mette hein, », ça revient à ça. Je parlais tout à l'heure du désir destructeur chez Hegel, c'est exactement ça. La suppression du langage, c'est aussitôt la possibilité de la violence. On est en conflit quand on ne se parle plus. Hein. Le malentendu est la source du conflit parce que le langage ne fonctionne plus. Donc vous voyez que le langage a une fonction gigantesque hein, dans la relation humaine, et le langage instaure la parole. Lévinas en fait le premier temps de la relation. Il dit « quand l'autre apparaît, son visage signifie « me voici ». Et c'est pas pour rien s'il utilise une expression langagière, c'est que le langage me fait répondre. Et il dit « mais oui, mais répondre, c'est aussi être responsable ». Et il ne joue pas seulement sur l'étymologie. Il veut dire que attendre, regarder l'autre, c'est se mettre en position de parler. Ne pas attendre, imposer son désir, c'est ne plus parler. Et donc, on ne parle pas dans la pornographie. On vocifère, on crie, on étouffe le bruit de l'autre hein, par ses propres cris. En tout cas, on ne se donne plus la possibilité d'écouter. Et parfois, quand on tombe sur des pseudo-dialogues, des pseudo-phrases en tout cas, qui répondent à des mots existants dans le dictionnaire, pas toujours, mais souvent, eh bien, on s'aperçoit que c'est un discours formaté et stéréotypé. On retrouve toutes les expressions les plus vulgaires possibles, qui sont finalement un langage anonyme. C'est pas la parole de quelqu'un, c'est les mots ramassés où on a pu les entendre et qu'on recrache, pour le coup, comme on pourrait les crier. Bref, de ce point de vue-là, ce qui existait déjà, à mon sens, dans la pornographie sous sa forme plus ancienne, eh bien, se retrouve sur Internet et peut-être un petit peu dans les sites de rencontres, je vais y revenir, nous conduisant finalement à des formes de relations sans surprise. On sait ce qu'on va trouver, on sait comment le trouver, on ne rencontre pas d'obstacles, et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me permet, je pense, de faire le lien avec Emmanuel Lévinas. Pourquoi ? Alors, pour essayer de voir le lien et l'évaluation qu'on va pouvoir faire au terme de cette comparaison, je voudrais passer, et Lévinas le fait lui-même comme cela, par l'analyse du contraire de la relation, hein, pour mieux comprendre la relation, à savoir la solitude. Qu'est-ce que comporte la solitude et qu'est-ce que ça peut nous faire comprendre de la relation qui nous permettra ensuite de comprendre le type de relation qu'on nous propose sur Internet. Eh bien, la solitude, nous dit Lévinas, c'est quelque chose de très ambigu. C'est quelque chose à la fois d'inquiétant, d'inconfortable, d'ennuyeux, mais en même temps, c'est le confort un peu, pour le dire vulgairement, pépère. La possibilité de faire ce qu'on veut, comme on dit vulgairement, quand on veut. De ne pas avoir à rendre des comptes, la possibilité de ne pas être contrarié dans ses désirs et dans leurs expressions. Bref, la solitude est ambiguë, nous dit Lévinas. Elle est à la fois un piège et un cercle vicieux, parce que c'est du pareil au même, dit-il, et ça peut même être angoissant, c'est souvent sur ce mode-là que c'est vécu. Il n'est pas bon que l'homme reste seul, mais c'est même pas la peine de lui dire la plupart du temps. Hein. Il a tendance à échapper de lui-même à la solitude. Il faut voir avec qui ensuite il va se retrouver. Mais néanmoins, la tendance spontanée est de sortir de cette solitude. Et en même temps, et notre époque a donné les moyens à ce désir, il y a quelque chose de très confortable. Rendez-vous compte tout de même que si je prenais les chiffres au départ sur le célibat, si le célibat est aujourd'hui possible, c'est peut-être aussi pour des raisons extrêmement matérielles, prosaïques et pas forcément très nobles, à savoir que nos sociétés sont assez riches pour qu'on puisse vivre de manière autonome. Il est des pays, je pense, même pas très loin d'ici, à la Russie, ou quand on divorce, on continue de vivre ensemble, parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter deux appartements ou d'en louer. Si aujourd'hui des divorcés peuvent dire vive le célibat, enfin la liberté, c'est parce qu'ils ont aussi les moyens matériels de vivre seuls. Donc c'est peut-être pas quelque chose qui va durer, je sais pas. Les sociologues parlent d'un futur retour dans les sociétés occidentales à des modes de vie patriarcaux, on verra bien. Il n'en reste pas moins que pour l'instant c'est possible. Et être divorcé, célibataire, voire célibatant, comme certains le disent, ça suppose d'en avoir les moyens, déjà. Donc, vous voyez, c'est très ambigu, parce qu'on s'aperçoit que l'expression du célibat, elle répond aussi à une forme d'affirmation de soi. Je suis célibataire, parce qu'après tout, je suis indépendant, je suis autonome, je vois pas pourquoi je dépendrais de quelqu'un. Et en même temps, on finit par tourner en rond. Alors, c'est la quadrature du cercle, cette histoire. Et c'est ce que dit Lévinas dans un vocabulaire un petit peu plus... métaphysique ou en tout cas apparemment technique, mais qui en tout cas peut, je crois, être illustré par les impressions que je viens de vous décrire. Et de ce point de vue-là, autrui, en général, qu'il s'agisse d'amis d'être en relation intime avec nous, eh bien, est un soulagement. Mais en même temps, un obstacle, évidemment, puisqu'il y a une ambiguïté dans la solitude, il y a l'ambiguïté corollaire dans la vie avec autrui, la relation. Et c'est pour ça que Lévinas, contrairement à ce qu'on dit souvent, le grand autre, c'est merveilleux d'être avec autrui, il s'impose à moi, tel, le visage de Dieu, etc. Non, pas du tout. C'est très compliqué d'être avec autrui chez Lévinas. C'est ambigu, là encore. Et c'est le corrélat immédiat de l'ambiguïté que je viens de vous décrire. Alors, pourquoi c'est ambigu? Eh bien, parce que l'autre, c'est la possibilité d'accomplir certains désirs que je ne pouvais pas accomplir seul. Ce qui fait dire à Lévinas, je le cite, « La volupté n'est pas un plaisir comme un autre, parce qu'elle n'est pas un plaisir solitaire comme le manger et le boire. » Bah oui, il y a des choses qu'on peut faire qu'à deux, et qui ont besoin d'être satisfaites, alors on peut dire « besoin » ou « désir », tout dépend où on place le curseur de cette motivation. Mais en tout cas, enfin je rencontre autrui parce qu'il y a vraiment des choses pour lesquelles je ne peux pas tout faire tout seul. Je ne parle pas simplement de la sexualité, je parle de la possibilité du dialogue, tout simplement. Bon, le monologue, dialogue de l'âme avec elle-même, pour Platon, dans le meilleur de la pensée, mais même le dialogue de l'âme avec elle-même, il finit par être un petit peu... bon, il pourrait être embêtant, en tout cas, au bout d'un moment. Et Platon a passé sa vie à dialoguer avec de vrais tiers, l'interlocuteur peut être le plus embêtant et en même temps le plus stimulant. On retrouve l'ambiguïté que je décrivais, étant notamment Aristote. C'est l'empêcheur de tourner en rond, mais heureusement qu'il y a Aristote, à tel point que dans les derniers dialogues de Platon, il y a un petit personnage nouveau qui débarque à côté de Socrate et qui s'appelle Aristote. Donc c'est en même temps celui qui empêche de continuer à penser en platonicien quand on s'appelle Platon, et en même temps, c'est celui qui stimule ma pensée. Donc même quelqu'un qui défend l'idée selon laquelle la pensée c'est le dialogue de l'âme avec elle-même, eh bien il ne peut pas l'assumer totalement dans sa pratique. Et la meilleure dialectique qui soit, c'est-à-dire le meilleur art du dialogue qui accouche de la vérité, eh bien c'est celui qui se fait avec autrui. Vous ne trouverez aucun monologue chez Platon. C'est une drôle d'histoire ça, pour quelqu'un qui pense que, qui affirme en tout cas, que la pensée se développe au plus haut dans un dialogue avec soi-même. Alors, outre, en dehors de cette comparaison, Lévinas dit aussitôt qu'en même temps, c'est très ambigu et que c'est un piège. Et il ajoute que cette dépendance qu'on introduit à l'égard de l'autre, non seulement elle est embêtante pour les raisons que je vous ai dites, mon désir peut être contrarié, ça peut ne pas se passer comme je voudrais, etc. Mais plus encore, Lévinas dit c'est surtout dans la relation amoureuse où cette ambiguïté apparaît. Ce qu'il appelle l'éros, la relation érotique. Alors, au sens large du terme, c'est-à-dire, c'est pas forcément l'accouplement lui-même, ça peut être toute l'atmosphère érotique qui l'entoure, la vie de couple, on dirait peut-être plus simplement. Et pourquoi est-elle le paroxysme de cette ambiguïté? Eh bien, parce que l'autre est incarné. On retrouve l'incarnation que j'évoquais tout à l'heure. Et qu'est-ce que c'est qu'une incarnation? Eh bien, là encore, c'est quelque chose d'ambigu. L'incarnation, c'est un corps que je peux toujours manipuler, c'est un corps que je peux frapper, c'est un corps que je peux retourner, c'est un corps que je peux éventuellement formater par différentes voies vestimentaires, etc. Mais en même temps, c'est le corps de l'autre. Et donc j'ai beau essayer de l'articuler, de le modeler à l'image de mon désir solitaire, ça restera toujours le corps d'un autre. Même le partenaire le plus docile le plus modelable reste un partenaire. Je ne crois pas que les gens qui auraient des pratiques, je pense ici aux pratiques particulièrement violentes, sadomaso, etc., je ne crois pas qu'ils soient satisfaits d'un sadomasochisme sur poupée gonflable. Ça ne ferait pas pareil. Parce que justement, on n'aurait pas à la fois le sentiment de manipuler vraiment quelqu'un d'autre, parce que ce ne serait qu'un morceau de plastique. Donc il faut que ce soit quelqu'un d'autre, mais en même temps, c'est tellement plus inconfortable que de manipuler une poupée gonflable. Lévinas a une comparaison, je me permets ce petit détour. Lorsque dans Totalité infinie, il décrit le visage de l'autre, il dit « Autrui est le seul être que je peux vouloir tuer ». Ça ne veut pas dire que je veux le tuer, mais que je peux vouloir tuer. Pourquoi ? Parce que tuer un animal lors d'une chasse ou écraser un insecte, c'est déjà détruire, c'est déjà tuer un être vivant. Mais c'est pas tellement intéressant, parce qu'il ne m'oppose pas vraiment de résistance. Alors, je parle pas de résistance physique, hein. Je parle de taureau, évidemment, il y a du sport hein, pour l'assassiner, mais enfin pour le tuer, pardon. Mais un visage va supposer que je peux me voir opposer, en tout cas à un moment ou à un autre, un désir qui n'est pas le mien, une liberté qui n'est pas la mienne. Ce qui signifie inévitablement que avoir l'autre comme un objet mort, c'est ne pas avoir réussi à emporter sa liberté avec soi. C'est l'avoir détruite en même temps que son corps. C'est avoir tué la bête en même temps que d'avoir voulu la conserver. Autrement dit, j'ai envie de tuer l'autre parce que je voudrais m'approprier sa liberté, mais dès que je le tue, je perds cette liberté. Ce qui veut dire qu'il faut que je puisse vouloir le tuer et en même temps, il faut que je m'aperçoive que c'est impossible. Il faut que je le préserve, et dans cette liberté qu'il peut toujours m'opposer, et en même temps, que je comprenne que c'est toujours un obstacle possible. Bref, c'est le seul être que je peux vouloir tuer, parce que c'est le seul être qui est si facilement assassiné, et en même temps si difficilement conservé dans cet assassinat. Alors, je referme une parenthèse qui en fait n'en était pas une, car cette ambiguïté, elle est absolument dans la relation érotique, nous dit Lévinas. Si vous feuilletez un peu Totalité infinie, on a cette ambiguïté rien que dans le visage de l'autre. Il est à la fois éminemment manipulable, masque, etc., figure, hein, et de l'autre, il ne l'est pas. Mais dans la relation érotique, c'est encore pire, car quoi de plus fantasmatique que le corps de l'autre ? Quoi de plus tentant que de réduire l'autre à un corps au moment de la relation sexuelle ? Et beaucoup de choses nous y poussent. Il y a une certaine violence dans le désir sexuel. En tout cas, il y a une certaine pulsion, quelque chose d'impulsif, quelque chose qui peut même nous surprendre alors qu'au départ, nous pensions être totalement nous-mêmes dans cet acte-là. Et en même temps, c'est pas une poupée gonflable. Et même la dernière des prostituées qui peut donner peut-être le sentiment d'être devenue totalement indifférente à ce qu'on lui fait reste une personne. Ça reste quelqu'un qui peut opposer un regard, dirait Sartre, ou un visage, dirait Lévinas. Donc, la relation érotique a quelque chose d'extrêmement séduisant au sens maléfique du terme, c'est-à-dire c'est le lieu où la manipulation est la plus possible, en tout cas la plus tentante, parce que la plus proche et la plus incarnée, et en même temps, c'est là où la limite de mon désir s'aperçoit toujours. Alors, voilà ce que dit Lévinas sur les relations en général et sur la relation érotique en particulier, mais maintenant je peux revenir à ma description sur Internet, bien que Lévinas n'ait pas une seule ligne et même pas un seul mot sur Internet. Il avait dû entendre parler, hein, parce qu'il est mort en 96, donc il a dû vaguement entendre parler, même si la France y est mise un petit peu tard. Je crois qu'il y a un parallèle à faire. C'est que si la relation a quelque chose d'ambigu, de difficile, d'inquiétant, et que la solitude a aussi quelque chose d'inquiétant, mais que la relation n'y répond pas totalement. Quel plaisir, ou en tout cas, quelle promesse que celui d'une relation qui me fasse échapper au désordre de la solitude et qui en même temps soit une relation homogène, sans inquiétude, sans surprise. Alors que dans la vie, je n'ai que des choses, en tout cas en partie imprévisibles et potentiellement inquiétantes, alors que l'autre peut toujours m'opposer son regard, son visage, son désir, son dialogue, etc. Là, tout d'un coup, j'aurai les avantages de la solitude, sans ses inconvénients, et les avantages de la relation sans les inconvénients. Ah, ça donne envie quand même. Pourquoi est-ce que, si c'est gratuit, si c'est sur mon bureau, si je peux toucher à toutes les images possibles, si ça me permet d'avoir le même confort que la solitude et les mêmes avantages, en tout cas dans le fantasme, que la relation, pourquoi je ne serais pas tenté par cela ? Pour le coup, c'est tenter le diable. C'est vraiment aller chercher involontairement. Hein. Je ne dis pas que les concepteurs d'Internet avaient lu Lévinas dans le détail et s'étaient dit qu'il nous faut une réponse à l'inquiétude lévinassienne. Évidemment, non. Mais ça vient comme une réponse à une intuition. C'est ça que je veux dire. À quelque chose qui n'est pas forcément explicité, qui n'est pas forcément ressenti comme tel, qui n'est pas forcément avoué, mais qui est au moins vécu. Vous savez bien que ce qui est invisible ou qui n'est pas encore dit peut avoir énormément de poids dans nos relations et pas simplement dans nos relations à Dieu pour ceux qui y croient. Il y a quelque chose ici qui est intuitionné, il y a une vérité sentie chez l'internaute qui est peut-être bien plus profonde que ce qu'on pourrait lui prêter en le voyant tapoter de manière frénétique et presque compulsive sur son ordinateur. Mais en même temps, principe de charité, je viens de l'appliquer, en même temps, ça ne préjuge pas de la qualité de cette réponse. Ce n'est pas parce qu'on vous promet les avantages de la solitude avec les avantages de la relation que votre réponse est bonne, voire possible. Peut-être que dans le projet, c'était déjà impossible. En tout cas, chez Lévinas, il n'y a pas de place pour une sortie de cette ambiguïté-là. Il y a la place chez Lévinas pour une relation riche qui assume cette ambiguïté, qui assume l'asymétrie, l'apostrophe, et qui ensuite essaie de voir ce que ça peut donner dans les relations sociales, mais il n'y a pas de place pour une relation où, en face de moi, je n'aurai qu'un alter ego. Donc, vous voyez la différence déjà entre le projet, qui à mon avis ne remporte pas le succès promis, et la posture lévinassienne, c'est que cette ambiguïté, elle est là. La vie est faite, après tout, de mixte, de mélange, d'ambiguïté. C'est peut-être gênant, surprenant, inquiétant, on peut mettre tous les qualificatifs négatifs, mais si la vie est ainsi et si la relation est ainsi, on doit l'accepter comme telle. On peut très bien, par exemple, par analogie, refuser la corporité, l'incarnation, dire « c'est embêtant, on tombe malade, c'est un poids, c'est un tombeau pour l'âme, etc. » Mais de fait, c'est là. Donc, la question n'est pas comment faire pour s'en débarrasser. La question, c'est comment bien vivre avec. Et Lévinas dit, en construisant des relations responsables. Alors, le mot, chez lui, a quelque chose fort de sens. Il ose très peu parler d'amour, en fait, parce qu'il dit souvent que c'est un mot galvaudé, dans lequel on est plus du sentimentalo gélatineux, vous voyez, type roman harlequin ou Bible mal comprise, que vraiment un sentiment profond. Donc il préfère, comme synonyme à responsabilité, donner le nom de « amour sévère ». Alors tout de suite, évidemment, ça fait beaucoup moins sexy. Hein. « Amour sévère », on voit le patriarche ou la mère qui nous dispute. C'est pas ce qu'il veut dire. Peut-être l'expression est difficile en soi. Il y a aussi toute une réflexion sur l'indicible chez Lévinas, mais il veut surtout se démarquer d'un mot qui est devenu abîmé, sali, etc. pour dire que on peut vivre cette ambiguïté-là d'une belle manière qui ressemble à ce qu'on présente lorsqu'on parle d'amour, c'est-à-dire d'une manière heureuse, mais d'un bonheur qui n'est pas un bonheur sans ride à la surface de l'eau, la ride n'étant pas le conflit, ce n'est pas ça qu'il veut dire. C'est que c'est un bonheur qui est toujours risqué. Une relation, c'est toujours un risque. Alors, ce n'est pas le risque de mourir, ce n'est pas le risque d'être trahi, ça peut l'être, mais c'est d'abord le risque d'être avec quelqu'un qui n'est pas soi, c'est-à-dire dont je n'aurais jamais fait le tour. C'est le risque d'habiter une maison dont je ne peux pas faire le tour du propriétaire en me disant « bon, c'est bien, tout est en place ». Voilà, autrui n'est pas une possession. Alors, je reviens à Internet, par ce détour lévinassien, c'est que il y a une inquiétude qui est légitime derrière tout ça. Et ce serait dommage de jeter la pierre un peu trop vite aux internautes en disant « ah, c'est très mal, il fallait faire comme avant ». Il y a une inquiétude légitime qui signale leur humanité, leur intelligence, leur perception de la nature, du rapport avec autrui. Donc, de ce point de vue-là, c'est une pratique humaine. Voilà. C'est peut-être un peu curieux de dire ça à propos de sites pornographiques, c'est moins surprenant pour les sites de rencontre, mais dire de quelqu'un qu'il regarde, je ne sais pas moi, des pratiques zoophiles ou des pratiques de mélangisme sur Internet qu'il accomplit aussi une pratique humaine. C'est peut-être pas quelque chose qu'on est habitué à entendre. Je pense qu'avec ce que je vous ai dit, on peut l'assumer. Néanmoins, c'est un désir qui s'exprime mal. C'est une inquiétude qui trouve une fausse réponse, un succès d'année parce que ce désir s'est mal compris lui-même. Et il y a beaucoup de désirs qu'on peut mal comprendre et mal exprimer, et donc mal satisfaire, bien sûr. Car ce que je dis est corrélé, je pense, par les faits, à savoir que on ne se rencontre pas plus et pas mieux par Internet. J'ai commencé par vous donner les chiffres du célibat, même si on peut toujours dire que les mariages n'étaient pas forcément heureux avant. Mais en tout cas, si on part de ce chiffre, disons qu'on a quand même moins de chances d'être heureux en couple quand on est célibataire que quand on est en couple. Enfin, je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Donc déjà, promesse non tenue, puisqu'on ne se rencontre pas plus. Donc le rêve de... la rencontre transparente, catégorisable, bien visible, bien prévisible, eh bien, n'est pas un rêve réalisé, même si on comprend pourquoi on a pu faire ce rêve. Et puis, on ne peut pas dire, par ailleurs, que la pornographie satisfasse totalement ses adeptes. Ils ont peut-être droit à une consommation facile, gratuite et sans le regard d'autrui. Les consommateurs de pornographie sont-ils plus heureux que les autres ? Si c'était le cas, ça se saurait depuis le temps. Je ne dis pas qu'ils sont forcément plus malheureux. Vieille idée que la pornographie enverra celui qui la pratique en enfer, etc. Bon, pourquoi pas, mais pourquoi hein. Après tout, il y a peut-être bien pire que ça, et je pense qu'il y a bien pire que ça. Mais ce qui est certain, c'est que même sans passer par ces jugements traditionnels et peut-être bien intentionnés, mais pas forcément bien informés, il y a quelque chose dans la pornographie sur Internet de l'ordre de la consommation triste. C'est-à-dire, oui, sur le moment, peut-être ça permet de décharger une pulsion, peut-être ça donne un sentiment de liberté, mais ça renvoie la personne à sa propre solitude et à sa propre insatisfaction. Elle y reviendra. Elle y reviendra comme une fin qui ne peut pas être totalement satisfaite et qui a forcément de surcroît quelque chose de violent. Alors, j'en arrive à mes conclusions. Je suis désolé, j'ai peut-être été un petit peu trop long, mais... Personne, a priori, ne s'est totalement endormi. Je veux croire que cela avait quand même une utilité. Première chose, je dirais que les relations ouvertes ou promises par Internet ne sont pas nouvelles au sens où on l'avait promis ou on a pu le décrire. Elles accentuent des tendances qui étaient déjà vécues dans d'autres relations. Internet, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle, n'a pas changé fondamentalement notre manière d'être ensemble. Ce qui, en revanche, est différent, c'est que l'ambiguïté ou la déception propre à certains rapports ou à la solitude elle-même ont trouvé ici une nouvelle façon de mal s'exprimer. Il y avait aussi d'autres manières de mal vivre sa relation ou de mal vivre sa solitude. Il y en a toujours eu des tonnes et des tonnes. Mais ici, on a quelque chose, de ce point de vue-là, nouveau, qui est une machine qui, du point de vue de l'imaginaire et du fantasme, fonctionne bien plus vite, à plus grande échelle, et qui, de ce point de vue-là, à quelque chose de sans doute plus séduisant que les manifestations antérieures. Alors, pour autant, je ne veux pas tout confondre. Je pense que les dangers que j'ai exprimés, en dépit de cette racine commune, les dangers que j'ai pu présenter sont pas tout à fait les mêmes dans les sites de rencontres, les réseaux sociaux ou les sites pornographiques, pour une raison très simple, c'est que le site de rencontre ne vous interdit pas la rencontre carnet un jour ou l'autre. Alors, certains peuvent y aller sans désir de face à face, mais en tout cas, ça reste possible. Dans le site pornographique, il n'y aura jamais de face à face. Enfin, je ne crois pas que les gens qui mettent des films sur ce genre de site proposent une sorte de service après-vente ou de poursuite du séminaire avec possibilité de rencontrer les acteurs dans un échange nourri, informé et dialogué. C'est pas du tout l'objet. Donc là, on sent qu'il y a une coupure, concrètement. Le site pornographique est une fin en soi. Voilà ce qui est dit implicitement. Le site de rencontre peut déboucher sur la rencontre réelle, physique, et c'est ce qui se passe parfois, à la condition suivante, c'est là où je serai peut-être un petit peu plus prescriptif dans ces conclusions, c'est à condition d'incarner relativement rapidement la rencontre virtuelle. Plus elle traîne sur la toile, et plus elle a de chances d'exprimer la même maladresse, voire le même mal moral, qu'on trouve dans la pornographie. Si le site de rencontre est une machine à fantasmes, il n'est pas, s'il reste cela et s'il est vécu comme tel, il me paraît aussi dangereux que la pornographie elle-même. Ce n'est pas parce qu'on n'assume pas l'image crue et qu'on préfère se la fabriquer tout seul dans sa tête que c'est moins grave. Pourquoi est-ce que ce serait moins grave? Pourquoi est-ce qu'une image pornographique construite de toutes pièces par mon imaginaire est moins grave qu'une image photographique, en tout cas à support photographique? Vous me direz, parce que peut-être ça implique autrui. Celui qui est sur le site de rencontre, il a besoin, au moins dans son imaginaire, de penser qu'il y a vraiment quelqu'un au bout de l'ordinateur. Donc ça implique autrui aussi. Donc d'un certain point de vue, je dis que c'est aussi grave. Mais d'un autre, je dis c'est moins dangereux aussi, parce qu'il suffit tout simplement de se dire c'est un instrument de rencontre au sens premier du terme, c'est-à-dire presque physique. Deux objets se rencontrent lorsqu'ils cheminent en sens opposé et qu'ils finissent par converger. Donc c'est peut-être très puissant, Internet en général, pour mettre en relation, mais il ne faut pas que ça nous fasse oublier que nous avons des corps et que un corps, c'est aussi nous. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.